France Culture. Les nuits de France Culture.
Il faut cultiver notre jardin. Voilà ce que Candide dit au philosophe Pangloss, à la fin du célèbre conte philosophique de Voltaire. Il faudrait ainsi cultiver une forme de richesse intérieure, à la fois exercer notre talent et trouver le sens de notre vie. Il y a pourtant des jardins, même si on en fait une expérience très intense, qui ne se cultivent pas. Ce sont des paysages qu'on ne peut ni contrôler, ni connaître totalement, mais qui peuvent fournir assez d'inspiration pour toute une vie. Dans ce numéro de « Sous le figuier, le bonheur » d'Anis Clément, c'est le chef Michel Brasse qui nous emmène en promenade dans la campagne de l'Aubrac. Cette nature sauvage, foisonnante d'herbes, de plantes et de fleurs en tout genre, est la muse de sa cuisine. C'est ce jardin à la fois immense et si personnel qu'il cherche à représenter dans ses assiettes. L'hommage qu'il veut rendre à cette nature se cristallise dans l'un de ses plats les plus célèbres, le fameux gargouillou de légumes, qui rassemble, selon les saisons, entre 30 et 45 herbes différentes. Une balade à la fois gourmande et onirique donc, avec un chef qui se mue en mystique, c'est tout de suite, dans une émission diffusée pour la première fois, le 8 août 2000, et réalisée par Angélique Thibault.
7h05, sous le figuier, le bonheur. Anis Clément, bonjour.
Bonjour Delphine, bonjour. Alors, à tous.
Où allons-nous passer ce nouveau matin au jardin?
Ce matin, notre jardin est immense, il s'appelle Aubrac.
Bon, alors voyons, au petit déjeuner, on pourrait prévoir un café chaud pour une crème glacée à l'italienne et un mazagran pour une tarte au sucre tiède. S'il y a encore des myrtilles, c'est l'idéal ça. À 10h, c'est le lait au riz et la tomate, ça c'est pour préparer le midi, autour du jaune, hein. C'est la pétanque, c'est tout ça. Un jaune ou un vin de gaillet, vous savez ce qu'on a senti tout à l'heure, avec des poissons bleus de la Méditerranée, anchois, sardines, maquereaux, avec du citron et du miel. Miel des pâtures. Hein. Après, bon, en digestif, une liqueur de vanille avec une pêche blanche de Marcillac, c'est pas loin de chez nous, c'est à 30 km, j'ai des jeunes là qui travaillent très bien pour moi. Avec un ratafia de muscat aussi, ce qu'on pourrait prévoir, oui, c'est une liqueur de vanille pour une pêche blanche rôtie, et puis un ratafia de muscat pour une pêche de vigne rôtie, mais ça c'est un poil plus tard, vous voyez, juste au début septembre là.
Les campanules fleurissent au bord du chemin, au pied de la reine des prés, qui répand une odeur de miel. Splendeur vénéneuse des aconites tulo, splendeur des lys martagons, avec leurs 6 pétales, mouchetés d'infimes points brun noir. Le chemin grimpe vers une maison de pierre et de verre qui surplombe l'Aubrac. Comme une gardienne, comme une sentinelle, elle veille sur les terres sauvages, tout autour de l'aïeul. Elle s'ouvre de toutes ses baies vitrées sur les pâtures des vaches d'Aubrac, dans leurs robes d'or pâle, aux yeux splendides, comme soulignés de cône, aux cornes en forme de lyre. La maison s'ouvre sur les nuages, sur la brume, le brouillard, la neige de mai, sur la hampe jaune des gentianes, les soleils froids, la rosée des matins bleus. Cette maison est un lieu d'alchimie où le cuisinier Michel Brasse nous prépare des mets délicats. Qu'y a-t-il dans notre assiette? Un poème, une œuvre d'art ou quelques fleurs du plateau? Michel Brasse, alors on peut dire que votre jardin, c'est toute cette région qui est sous nos yeux, c'est ce plateau de l'Aubrac.
Oui, c'est ce désert, en fait, ce désert vert, en fait.
Un désert, vous dites?
Oui, oui, parce que c'est. Moi, j'aime bien ce jardin parce qu'il nous ramène en permanence à l'essentiel. C'est assez zen. Hein. C'est ce rapport qu'on peut avoir par rapport aux éléments, au ciel, à la terre, à un caillou chargé de lichen, à un souffle de vent, au silence. C'est un peu tout ça.
Alors, vous aimez tellement votre région, Michel Brasse, que vous avez eu envie de la manger et de nous la faire manger?
Oui, mais alors disons que, bon, moi j'ai peut-être envie un peu de démystifier un peu cette approche, parce que c'est vrai que, bon, si l'Aubrac c'est mon jardin, c'est un peu aussi ma vie, alors c'est mon terroir. Alors partant de là, moi j'ai envie de dire que le terroir, eh bien, chacun en a sa lecture. Et ma lecture, elle est peut-être, elle m'est spécifique, et l'écriture que j'en fais dans les assiettes, c'est très personnel, c'est mon identité, c'est mon âme, c'est ma jeunesse, c'est tout ça qui passe dedans.
Alors, comment vous avez découvert cette région ? Vous êtes né ici, je crois ?
Moi, je suis arrivé à l'âge de 6 mois, donc je peux dire que je suis pratiquement né ici.
Et tout de suite, vous avez regardé les plantes ?
Non, je crois que la nature, bon, en fait, c'est un long apprentissage. Vous savez, quand on est petit, qu'on est enfant, bon, la nature, c'est d'abord le jeu, c'est l'angoisse de la nuit qui tombe, c'est les bruits insolites quand les parents vous larguent, je sais pas moi, dans une hêtrée, qu'ils vont se promener. En fait, c'est un peu tout ça. Alors, ça apprivoise, et petit à petit, y a une démarche de contemplation qui se met en place. Mais bon, ça, c'est le temps qui fait son œuvre. Alors disons que moi, l'approche que je peux avoir de la plante, mon approche, c'est pas la plante dans le sens premier du terme, c'est plus que ça. Moi, ce qui peut me captiver, c'est l'architecture d'une plante, c'est l'image qu'elle peut véhiculer par rapport, mettons, mon emblème, la cistre, c'est l'histoire qui est derrière, c'est les buronniers du plateau qui racontaient que le fromage de la Yole, il était le meilleur du monde parce que la pâture était riche en cistre. Bon, et ça peut être aussi un parfum que j'ai capté au détour d'une sente. Bon, à la Reine des Prés, moi, je peux vous rappeler quand est-ce que je l'ai découvert la première fois et comment elle m'a interpellé. C'était un jour qui était très chargé, l'atmosphère était humide, donc au niveau des muqueuses, c'était beaucoup plus réceptif au niveau des odorats. Et j'ai capté cette odeur de miel, cette odeur de cire très sensuelle, très lourde. Et ça m'a interpellé, ça m'a interrogé. Parce que bon, je pratique un sport, c'est la course à pied. Alors je me suis arrêté, je suis resté presque comme un chien en arrêt, là. Puis j'ai dit, mais d'où ça vient, comment ça se fait? Et puis j'en ai cueilli 2-3 brins, je l'ai ramené à la maison, et puis c'est parti de là, bon, je l'ai identifié. J'ai voulu comprendre ce que c'était, et voilà, c'est parti un peu de là.
Mais si vous voulez. Et qu'est-ce que vous en avez fait de cette Reine des Prés, bon, Michel Brasse?
Moi, j'en fais surtout une crème glacée. Une crème glacée au parfum de Reine des Prés. La démarche que j'ai vis-à-vis de la nature, c'est un peu dans la démarche. Enfin, ce qu'a pu écrire Lamartine, il dit la nature est là qui t'invite et qui t'aime. Le rapport que je peux avoir à la nature, c'est plutôt un acte d'amour. Elle me donne, j'ai envie de le. C'est un donnant-donnant, si vous voulez. Donc, moi, j'ai envie de restituer ce que je trouve un peu dans l'état. Quand je cueille la petite oseille acétosable, j'ai envie de la restituer telle que je l'ai découverte. L'oxalis, c'est pareil, vous voyez. Il y a cette démarche de respect.
Michel Brasse, vous m'avez parlé de la cistre.
Oui.
Est-ce qu'on peut en voir ?
Ah oui, tout à fait, il n'y a pas de
problème.
Allons-y
alors.
On y va. Oui, ça c'est pas une pâture où il y a beaucoup de cistres, on va en trouver un peu. Et en ce moment, il y a une plante qu'on utilise en cuisine, c'est cette grappe de fleurs, là, c'est ce gaillet. Alors ça a les arômes de miel, de cire, et on en parfume une vinaigrette qu'on sert avec des oignons, des cèpes de Lézignan.
Qu'est-ce que c'est que les cèpes de Lézignan ?
C'est un oignon doux, hein, qui n'est pas très astringent.
En cherchant la cistre, on est arrivé devant une gentiane.
Oui.
Qu'est-ce que vous en faites de la gentiane, Michel Brasse ?
Bon, ben alors les feuilles, je m'en sers actuellement pour faire une présentation de dessert. Plus en ce moment, on la sert avec des fruits. Mais chaque année, il y a une kyrielle de dessert qui sort. Ou même, à un moment, je l'ai eu servie avec des agneaux, avec de l'agneau. Là, je n'ai pas trop en tête.
La gentiane, elle envahit tout l'Aubrac, hein ?
Oh, ben c'est une plante un peu symbolique du plateau, oui.
Ouais.
Ah là, voilà, c'est là, Yann. C'est ça, la cistre.
Ah oui.
Ou fenouil des Alpes, ça s'appelle aussi. Voilà.
Et ça sent comme du fenouil ?
Oui, oui, oui. Voilà, alors le nom latin, c'est Meum Atamanticum. Voilà. Et c'est notre emblème, vous voyez. Et puis, alors, on l'a mis dans l'autre sens, parce que c'est une plante que j'estime qui est très fragile. Et quand je l'accueille, voilà, je la blottis dans ma main, voilà.
Pourquoi vous la blottissez dans votre main ?
Parce qu'elle est très fragile pour... C'est pour la mettre un peu à l'abri, vous voyez. C'est un peu cachotier, là.
Pourquoi vous l'aimez, cette plante, Michel Brasse ?
Alors, pour plusieurs choses. Parce que... Elle est capricieuse, mais dans le bon sens. Elle est un peu écolo, parce que... Sitôt qu'on commence à traiter les pâtures et tout ça, elle disparaît. Et puis, alors pour ça, parce que c'est aussi une plante d'altitude, on la trouve au-delà de 1000-1200 mètres. Et puis c'est toute l'histoire qui est véhiculée derrière par rapport à ces buronniers.
Et qu'est-ce que vous en faites, vous, aujourd'hui, de la cistre ?
Actuellement, je ne sais pas si... mais souvent, je la sers avec une sauce que je fais avec du lactosérum, avec le résidu du caillage du lait. Voilà.
Michel Brass, ce jardin d'Aubrac qui est devant nous, c'est aussi un paysage tout à fait spécifique sur ce plateau granitique. Hein.
Oui, oh ben, c'est ce que dit Grac, non, c'est Poura qui dit ça, il dit qu'on y est dans l'air, on est nulle part, on est... Le ciel, bon, le ciel que j'aime sur l'Aubrac, c'est pas celui d'aujourd'hui, tout bleu, là, immaculé. Pour moi, les plus beaux ciels, c'est quand ils sont chargés, là, qu'il y a des nuages, enfin des cumulus qui sont gris-bleu, là, vous voyez. Et puis, quand ils se profilent sur l'horizon, vous voyez, cet horizon sans fin, là, et puis à travers ces nuages, il échappe quelques raies de lumière, vous voyez. Ça plombe sur le sol. Et alors, c'est... Moi, à ce moment-là, j'oublie les nuages, j'oublie la terre. Et c'est rien que le jeu de l'ombre et de la lumière. Si bien que, en cuisine, moi, j'ai baptisé un plat qui s'appelle Ombre et Lumière, qui est bâti, enfin, sur cette impression que j'ai. J'ai mis 2-3 ans à le mettre en forme parce que je n'avais pas trouvé l'approche technique. Et... Pour moi, c'est peut-être le plat qui est le plus abouti dans ma réflexion par rapport à l'écriture de mon plateau.
C'est ça. Vous essayez de retranscrire vos sensations, de nous les redonner, mais de nous les donner à manger en quelque sorte.
Oui, mais en fait, pour moi, la création, c'est plus que... Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le rapport que j'ai au terroir, c'est plus que le produit, parce que bon, si je me basais uniquement là-dessus, sur le plateau d'Aubrac, ça serait... Ça se cantonnerait à quoi ? Ça se cantonnerait à de la charcuterie, à de la pomme de terre, à du fromage, et puis on aurait fait le tour, un peu, la viande de bœuf si vous voulez. Tandis que, pour moi, la création, c'est ce qui se passe à son intérieur, c'est ces vibrations qu'on peut avoir. Alors, c'est une esthétique. Enfin, pour moi, la création, c'est une grosse bulle. Où là-dedans, il y a quoi ? Il y a du silence, il y a de la musique, il y a ta jeunesse, il y a le produit, il y a un peu tout ça. Et puis, c'est la symbiose de tout ça qui fait que la création, à un moment donné, elle s'aboutit, elle se met en forme, et elle est pure, elle est élégante.
Une démarche mystique finalement dans votre travail, Michel Brass.
Je sais pas, bon, vous me posez une colle là, mystique, parce que je suis un contemplatif, parce que ça me prend les tripes, parce que bah, peut-être, c'est des choses, je sais pas, bon, c'est tellement intime ça que j'ai du mal à le traduire en fait.
Absolument magnifique, la couleur de ce tronc qui est gris.
Oui, oui, c'est qu'un maillot de gris, là.
Ouais. Avec ces trouées de lumière. Quels sont vos paysages préférés en Aubrac ?
C'est là où il n'y a rien.
C'est-à-dire ?
Mais c'est l'immaculé, en fait. L'immaculé... ces longues pâtures qui s'étirent là comme ça, qui sont ondulées avec deux arbres à un endroit, trois cailloux à un autre, deux nuages en quelque part, un ruisselet. Vous voyez, c'est aller en permanence à l'essentiel.
Et votre saison préférée ?
Printemps.
Pourquoi ?
Parce que c'est la renaissance, c'est la vie, c'est la floraison, c'est beau, c'est un morceau, c'est une partition de jazz le printemps, ça sonne de partout, ça je sais pas, c'est joyeux, c'est tout ça.
Et alors à ce moment-là, vous nous composez des assiettes joyeuses.
Ah oui, tout à fait, ma cuisine préférée, c'est vraiment celle-là. Hein. Le sous-bois, j'ai une image que j'ai dans ma mémoire, c'est, je vois l'endroit, c'est un peu plus loin d'ici. C'est l'automne quand les feuilles d'alisier et les feuilles de hêtraie tombent. Alors vous avez un camaïeu, enfin il n'y a même pas un camaïeu, il y a un plan où toutes les feuilles de hêtraie, vous voyez, elles sont brun clair, et puis dessus il est tombé juste quelques taches de feuilles d'alisier qui sont encore toutes dorées. Et ça, j'aimerais un jour le retraduire dans une assiette. Quand, je ne sais pas.
à quelques kilomètres de l'Aïeul, le jardin botanique d'Aubrac, près de l'ancienne Daumerie, située à 1300 mètres, semblait nous faire signe. Comment résister au plaisir de faire connaissance avec quelques-unes de ces plantes spécifiques du plateau, installées ici depuis plus de 10 000 ans? Comment résister au pigamon, au lusul blanc de neige, au conopode, à la barbarée, à la rabette?
Francis Nériga, montrez-nous la ligulaire de Sibérie.
Bien, la ligulaire Sibérie, vous l'avez en bordure de la tourbière reconstituée que vous avez dans le fond du jardin. Alors, c'est cette plante aux grandes feuilles. Donc, c'est une plante reliquat de l'époque glaciaire qui a pu s'adapter sur l'Aubrac dans des sites importants, ce qui est assez rare. Par suite des nombreuses zones humides qui ont subsisté depuis la fonte des glaces du Quaternaire, et également par suite de la lenteur et de la grande durée de la fusion de la calotte glaciaire qui recouvrait à cette époque l'Aubrac. Alors en Aubrac, il y a au moins deux sites importants, l'un se situant autour de lac, les autres dans des fossés le long de la route d'Aubrac à l'Aïeul, et où elle prolifère pour le moment, en espérant que le réchauffement climatique lui permettra de continuer encore à croître.
Donc c'est une plante ornementale, j'allais dire?
On pourrait l'utiliser comme plante ornementale, car effectivement, les hampes florales sont assez jolies. Bien sûr, elle n'est pas utilisée à ce titre-là. D'autre part, c'est une plante protégée, et donc il est normalement exclu de l'arracher pour la transporter dans ses jardins.
Elle se maintient ou est-ce qu'elle agrandit son territoire?
Pour le moment, elle se maintient. Agrandir son territoire, je ne pense pas, parce que dans le site des lacs, il y a forcément petit à petit une diminution des zones humides. Il en est de même, bien sûr, dans la zone le long de la route. Et puis d'autre part, le réchauffement climatique actuel n'y est certainement pas très favorable. Malgré tout, étant donné l'altitude, les influences montagnardes et océaniques que l'on a sur l'Aubrac, elle a l'air de encore se comporter convenablement.
Elle se reproduit de quelle manière? Par graines ou par rhizome?
Il est probable qu'il y a les deux. Les racines d'une part, type rhizome, et d'autre part, probablement un peu les graines aussi.
C'est dommage qu'on ne puisse pas la voir en fleurs, hein, monsieur Nériga. Elle va fleurir quand?
Eh bien, elle va fleurir dans, disons, 3 semaines à peu près. 15 jours, 3 semaines.
Donc des couleurs jaunes, c'est ça?
Couleurs jaunes.
Alors vous avez combien de plantes dans ce jardin botanique, Francis Nériga?
Bien, il y a plus de 500 plantes, dont la plus grande partie, au moins 95%, proviennent du plateau au-dessus de 1000 mètres, les 5% restants provenant du pourtour du massif.
Alors, on trouve partout dans les boutiques en ce moment du thé d'Aubrac. Qu'est-ce que c'est?
Alors, le thé d'Aubrac est une plante qui pousse dans les hêtraies claires de l'Aubrac, et qui est d'ailleurs actuellement en fleurs, et qui, dans cet état-là, est ramassé pour être séché à l'ombre, d'une autre préférence, pour en faire ensuite des infusions, qui sont des infusions un petit peu mentholées, car c'est une plante qui a une odeur de menthe un petit peu, mais là aussi relativement faible, pas trop fort, et également d'autres goûts avec beaucoup plus... complexe et qui font que l'ensemble est beaucoup plus fin, d'où son usage comme infusion et d'où son nom de thé d'Aubrac.
Donc la richesse de cette flore du plateau de l'Aubrac tient à ces terres schisteuses et granitiques?
Alors la richesse de la flore de l'Aubrac a de multiples raisons. Une première, c'est que la roche volcanique de l'Aubrac, relativement neutre, est favorable au développement de plantes aussi bien exigeant des terrains acides que des terrains basiques et a fortiori des terrains neutres, mais aussi au fait que dans le pourtour, il y a des terrains extrêmement variés aussi bien acide, granitique, que schisteux, que calcaire, et en plus même des terrains de dépôts alluvionnaires glaciaires qui mélangent un peu les tout.
Michel Brass, alors l'alchimie a eu lieu, les plantes que nous avons vues tout à l'heure dans la nature, les voilà dans notre assiette, et voilà par exemple le gargouillou avec toutes ses couleurs, toutes ses saveurs, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dans le gargouillou?
En fait, dans le gargouillou, c'est plus que des fleurs, des plantes, c'est une vision d'un coin de pâture au mois de juin. Alors vous imaginez, quand la floraison bat son plein, qu'il y a des fleurs de toutes les couleurs, odorantes, goûteuses. Les graminées qui sont agitées par le vent, c'est un peu tout ça. C'est ce plat qui est tonique, vif, dynamique, qui respire le printemps à pleines dents.
Alors, c'est magique parce que les couleurs, elles sont intactes. Or, les plantes ont été cuites.
Oh ben non, il y a un travail sur le potager, sur le légume, qui est assez pointu, puisque chaque légume est traité individuellement. Et quant aux fleurs, il y a des fleurs que j'ai envie de respecter parce que je les ai découvertes dans un état peut-être primaire, mais c'est comme ça qu'elles se sont offertes et c'est comme ça que j'ai envie de les offrir à mes clients.
Alors, combien de plantes dans le gargouillou?
En plantes potagères, ça peut varier de 30 à 45.
Selon les saisons?
Suivant les saisons. Alors, le printemps, c'est le gargouillou que je préfère parce qu'il est plus tonique, plus dynamique, il est plus acide. Alors, lorsqu'on glisse sur l'automne, c'est des saveurs beaucoup plus douces, c'est de la racine. En fait.
Alors donc, il y a cette alliance subtile entre les couleurs et les saveurs. Et puis aussi, il y a un mariage entre le végétal et le minéral. Vous amenez sur la table des plaques de lave.
Mais comme j'ai pu vous exprimer hier, bon, quand je regarde le plateau, pour moi, c'est plus que du goût. C'est une ambiance, l'émotion, elle se traduit par tout ce que je peux percevoir, capter, entendre. Bon, cette pierre de lave, pourquoi? Parce que dessus, j'ai envie de mettre presque en lévitation ce poisson, parce que ce poisson, il a une telle perfection de cuisson qu'en fait, il n'a pas besoin de sauce. Il se suffit à lui-même, alors il est là pour le transcender dans sa splendeur.
Alors le végétal, le minéral et l'eau d'Aubrac.
L'eau d'Aubrac, tout simplement, c'est ce clin d'œil qu'on a sur nos tables. En ne servant pas de l'eau minérale, on sert à gogo une carafe d'eau avec de l'eau de notre puits.
Et là, je crois que le jardin, il est complet. On a fait presque le tour du jardin.
Oui, totalement, oui. Ah. Oui, oui. Sachant que bon, ces éléments, à un moment donné, ils peuvent se retrouver, glisser l'un vers l'autre dans certains plats, dans certaines ambiances. Il n'y a qu'à regarder l'ambiance de la salle à manger avec ce cours d'eau qui ruisselle, et dont le chuchotement et le clapotis peut être ce clin d'œil perpétuel à l'eau. C'est clair que si vous voulez ce pays, là, bon, j'ai mis longtemps à le comprendre, ce pays. Je pense que je l'ai compris, ce pays, j'avais besoin, je sais pas, 30, 35 ans. Donc, si vous voulez, il y a cette longue maturité a fait que je suis accroché à ce pays. C'est lui qui m'a offert toutes ces visions, qui m'a offert toute cette sensibilité. Quand on dit que je suis zen, je ne suis pas zen, c'est l'Aubrac qui est comme ça. C'est lui qui m'offre cet arbre avec un éclairage spécifique, c'est lui qui va m'offrir ce cours d'eau, c'est lui qui va m'offrir ce mouvement de graminée à un moment, et c'est lui qui tout le temps me ramène à l'essentiel. Donc de par les voyages qu'on peut faire de par le monde avec mon épouse, je peux avoir des idées que je capte à droite et à gauche, des émotions, mais quand je reviens à mon pays, c'est lui qui me recadre tout le temps.
C'est alors que l'été bascule, il a fait chaud.
C'est alors que l'été bascule, il a fait chaud, la pelouse ressemble à un paillasson. Les fleurs ont renoncé à fleurir et les oiseaux à chanter. Avant le 15 août, l'ardeur solaire frôle l'accablement. Après le 15 août, de brusques fraîcheurs succédant aux orages présagent déjà l'automne. Le feu du ciel s'apaise sous l'empire des vents et les nuages regagnent l'espace. Après la canicule et les longues sécheresses estivales, de petites pluies régénèrent les cultures et préparent l'opulence des jardins.
Les tomates
les tomates, melons, poivrons, concombres et courgettes dévalent partout. Les salades renaissent et les citrouilles grossissent. Voici venu le temps des récoltes et des conserves.
Le raisin mûri,
la prune, la noix et la noisette aussi,
la figue enfin,
et la pêche de vigne, la poire, la pomme. Le verger croule sous la profusion. C'est le temps des deux dames, celle du 15 août et celle du 8 septembre. Le temps de la Vierge, prévoyante et pourvoyeuse, le temps de l'amitié et de la générosité absolue.
Le temps de l'amitié et de la générosité absolue.
Un jardin nommé Aubrac avec Michel Brasse et Francis Nueriga. Sur l'Aubrac, vous pouvez lire le très beau livre de Nicole Lombard, Étranger sur l'Aubrac, édition du Bon Albert, et relire Le Grand Chemin de Julien Gracq. À la technique aujourd'hui, Gaëtan Colli, groupe de réalisation Pierre Morizet, Jean-Claude Gauthier, Laure Jung-Lancret et Angélique Thibault.
C'était un numéro de Sous le figuier, Le Bonheur d'Anis Clément, diffusé pour la première fois le 8 août 2000.